La maison où je vis, à la découverte des maisons de stars sur Radio Immo.
La maison où je vis, vous êtes les bienvenus sur Radio Immo, comme chaque mois, découvrez la maison des stars, des personnalités, du spectacle, de la télé aussi, sur Radio Immo. Pour ce nouveau numéro, nous sommes avec l'une des présentatrices vedettes de la météo de France 2, la Toulousaine Chloé Nabédian. Bonjour Chloé.
Bonjour Christophe.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie, pour ce nouveau numéro sur Radio Immo.
Mon pays. Ô Toulouse, je reprends.
Ah, Toulouse.
C'est un cadeau. Rose.
C'est
oui.
Un cadeau pour vous.
C'est gentil, merci.
Ça vous fait plaisir, j'espère.
Beaucoup.
Bon. Qu'est-ce que vous inspire cette chanson de Nougaro, tiens?
Ah ben c'est tout le flegme toulousain. Moi, quand j'entends Nougaro, je revois cette place du Capitole avec cette briquette rose, cette tonalité justement
rose.
Oui,
rose.
On me le reproche souvent d'ailleurs rose. À la météo d'avoir les hauts trop vers le haut. Ce sont mes restes de Toulouse justement. Mais voilà, il y a une ambiance très chaleureuse là-bas. Je me rappelle des soirées place Saint-Pierre avec cette architecture aussi magnifique, tout en pierre. C'était très chaleureux.
Vous y retournez de temps en temps ?
Oui, bien sûr, j'ai toute ma famille encore qui est là-bas,
ah oui.
Donc j'y retourne régulièrement quand même.
Bon, on va parler de vos goûts architecturaux, vous parlez de la briquette rose, donc je ne sais pas si la briquette est restée au fond de votre cœur et de votre estomac, parce qu'on dit souvent, ou de votre ventre, parce qu'on dit que les Français ont une pierre dans le ventre. Alors est-ce qu'ils ont une briquette dans le ventre ? On va le voir avec vous, bien évidemment. On va parler de la maison de votre enfance, de Toulouse, du changement climatique aussi, parce que vous êtes très pointu là-dessus, et du Tour de France, parce que dans quelques semaines maintenant, vous allez justement entamer un Tour de France autour de cette question de l'environnement, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui va se passer ? Racontez-nous.
Alors c'est pendant en fait les différentes étapes du vrai Tour de France avec les coureurs donc, qui vont y participer. À chaque étape, on va donc montrer le patrimoine naturel aussi qui nous entoure dans notre France, en mettant l'accent sur une espèce, une réserve naturelle, en montrant aussi les personnes qui œuvrent pour préserver cette biodiversité au quotidien.
Donc vous allez faire le Tour de France à vélo comme les autres ou...
Non, pas à vélo. Là, je suis restée sagement...
Dans la caravane du Tour.
Non, alors malheureusement, à cause de la crise sanitaire encore, tout le monde reste à Paris pour cette année encore. On l'espère l'année prochaine pouvoir de nouveau les accompagner. Mais non, j'ai dû rester à Paris. Ce sont d'autres journalistes qui sont partis sur le terrain capturer les images. Et moi, je me suis occupée de préparer tous les lancements.
Du montage, du mixage, montage, etc., etc. Donc, chaque jour du Tour de France, à partir, je ne sais plus la date d'ailleurs,
ça sera le 26 juin.
Voilà, le 26 juin. À partir de cette date-là, tous les jours, on aura un rendez-vous dans un coin de France sur une initiative environnementale, par exemple. Voilà. On a un exemple dans une région. Vous avez quelque chose en tête qui pourrait vous revenir comme ça rapidement ?
Ah, qui pourrait me revenir. Alors, on met l'accent, par exemple, sur un grand massif dunaire qui est présent en Bretagne. Mmh. Et on est parti à la rencontre d'une personnalité en particulier qui protège ce massif. Et on va pouvoir le mettre en avant lors de cette pastille.
Eh bien voilà, rendez-vous donc sur France Télévisions à partir du 26 juin. Chloé Nabédian, parlons un peu de la météo. Vous êtes encore venue ce matin avec votre ciré et votre parapluie. On n'en peut plus hein, de ce mois de mai pourri là.
Oui, j'ai même mon gros manteau d'hiver. Alors c'est dire, c'est une situation de blocage en fait qu'on a en ce moment. C'est vrai que ça fait un mois et demi qu'on a un système anticyclonique qui est beaucoup plus présent au niveau du pôle, où il fait quand même 30 degrés là-bas. Donc, c'est eux qui nous ont piqué un petit peu la chaleur, malheureusement, pour eux. Et nous, on se retrouve avec des flux dépressionnaires qui apportent encore beaucoup de pluie, mais on tend peut-être vers une embellie à la fin du mois de mai.
Bon, donc et au niveau de l'été, il va faire beau ou pas ? Parce que maintenant qu'on est déconfiné, que les terrasses sont là, etc., on a envie de vivre un peu, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On sait déjà ou pas ?
Alors, précisément, on ne peut pas savoir. C'est toute la différence entre la météo et le climat. On pourra le savoir que quelques jours avant. En revanche, la tendance de la prévision pour Météo France, c'est une tendance plutôt un temps sec et chaud pendant les 3 mois d'été. Donc,
moi, je me demandais, Chloé Nabédian, finalement, parce qu'on ne vous connaît pas suffisamment, je trouve. C'est l'occasion de vous découvrir, évidemment, à travers cette émission. Comment vous avez atterri à la météo ? C'était un rêve de gosse ? C'était quoi ?
Alors, à la base, moi, j'étais danseuse. Donc, c'est une reconversion, le métier de journaliste. Aujourd'hui, c'est mon deuxième métier. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce métier lorsque j'ai repris mes études. Et c'est vrai que j'avais aucun contact, aucun réseau, aucune expérience pour me lancer. Et j'ai commencé tard puisque j'avais 27 ans. Donc, j'étais un petit peu sur la tendance plutôt...
C'est incroyable haute. Parce qu'on dirait que vous avez 27 ans.
Oh, donc, c'est gentil.
Ben, c'est vrai.
Non, j'ai un peu vieilli entre-temps, mais du coup, j'ai commencé tard et j'ai fait quelques castings, dont celui de la météo, effectivement, parce que j'avais cette appétence déjà pour tous les sujets scientifiques. Et c'est la chaîne Météo qui m'a donné ma première chance, qui m'a formée à ce métier. Et j'ai compris l'étendue des possibilités, en fait, avec la matière météo, parce que c'est totalement transversal. Ça touche tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âge, tous les secteurs également. Et j'ai compris qu'on pouvait réaliser énormément de choses avec la matière météo, et donc j'ai foncé dedans.
Alors justement, je rappelle quand même que vous avez écrit un livre il y a maintenant quelques mois, « La météo devient-elle folle ?» Dans votre livre « La météo devient-elle folle ?» justement, vous cherchez à rétablir la vérité sur le réel impact du réchauffement climatique sur l'évolution des phénomènes météorologiques. Pourquoi cet angle d'attaque ? D'ailleurs.
Parce que souvent, lorsque je sortais dans de mes journaux météo, l'équipe technique me disait « Ah là là, ça y est, il pleut, c'est à cause du réchauffement climatique » ou « Il fait trop chaud, c'est à cause du réchauffement climatique ». Enfin, tout devenait à cause du réchauffement climatique. Et du coup, je me suis intéressée à la question pour savoir quel était le réel impact du réchauffement climatique sur nos phénomènes météorologiques, parce que j'avais cette hypothèse que tous les phénomènes n'étaient pas forcément impactés de la même manière et certains pouvaient même nous surprendre à être impactés à l'inverse de ce que l'on pourrait penser. Et donc j'ai commencé ce travail, j'ai rencontré de nombreux chercheurs et effectivement la réalité c'était que tous les phénomènes météorologiques n'étaient pas impactés de la même façon. Les tempêtes par exemple, avec le réchauffement climatique, vont être beaucoup moins puissantes et fréquentes dans les années à venir, contrairement aux canicules où on le sait aujourd'hui, elles seront beaucoup plus importantes.
Mais ce réchauffement, il est quand même réel.
Oui, il est réel, il est
là. Vous n'êtes pas climato-sceptique.
Non, pas du tout. C'est d'ailleurs pas du tout l'angle du livre.
Oui.
Le réchauffement climatique est avéré, c'est juste qu'il impacte différemment en fait nos phénomènes météo, parce qu'il y a besoin pour que certains fonctionnent de l'air froid, tout simplement. Les tornades, les tempêtes ont besoin d'apports d'air froid. Donc si avec le réchauffement climatique il y a moins d'air froid, notamment il y aura moins de tornades à venir et moins de tempêtes.
Est-ce que vous avez l'impression, alors je ne sais pas si vous êtes calé là-dessus, mais est-ce que vous avez l'impression par exemple que le gouvernement aujourd'hui en fait assez? Il y a cette loi climat et résilience qui est au Sénat pendant quelques jours. Est-ce que le gouvernement va assez loin, par exemple, quand il oblige les propriétaires immobiliers à faire le nécessaire pour que leur appartement soit viable, qu'il soit bien isolé et donc qu'ils puissent le louer, parce que sinon ils ne pourront plus le louer. Est-ce que c'est une bonne mesure, ça, par exemple, pour vous?
C'est une bonne mesure si jamais elle est accompagnée. Je crois que c'est le cas, effectivement. Il y a des fonds,
il
y a des aides.
Mais il en faudra
fonds...
peut-être plus, d'ailleurs. Mais bon.
Peut-être, mais je pense qu'ils ne seront pas à côté de cette aide-là, en tout cas. À mon avis, c'est vraiment, ça va être une clé pour que ça puisse fonctionner, parce que tout le monde n'a pas les moyens de rénover son logement selon quand il a pu l'acheter, ou peut-être que c'est un héritage et qu'il ne peut pas forcément s'en occuper comme il le peut. Mais en tout cas, les aides seront là et il faut être malheureusement encore plus audacieux sur toutes les mesures qui vont être mises en place. Le réchauffement climatique est en place et en fait, le prix que l'on va payer demain sera d'autant plus impactant que ce que l'on paye aujourd'hui. Et la réalité est là et malheureusement pour moi le gouvernement n'est pas forcément au niveau de l'histoire à ce moment-là.
Dites-moi, Chloé Nabédian, vous êtes toulousaine, on l'a dit au début de l'émission. Alors là-bas, quand il pleut, j'ai envie de dire, il pleut. Quand le vent d'autant souffle, ça souffle
fort.
Vraiment et plusieurs jours. Quand le soleil donne, il donne aussi, hein, pour être clair. Votre enfance, votre adolescence, c'est dans la région toulousaine. Quel souvenir vous conservez de l'habitation de votre jeunesse avec les parents, tiens, par exemple?
Ah ben, cette maison, déjà, c'était aussi le lieu de travail de mon père, puisqu'il était médecin, donc il avait son cabinet médical, voilà, qui était attenant à la maison. Donc, pour moi, ces souvenirs, c'est avant tout une maison de famille où on y a vécu tous nos moments. On ne voyageait pas forcément systématiquement, loin de là même, et c'était vraiment le recueillement de notre famille. C'était les barbecues avec les amis de mes parents le week-end, c'était les fêtes d'anniversaire dans le jardin avec ma sœur. Enfin, c'est vraiment le noyau familial pour moi.
Aujourd'hui, vous habitez ici à Paris, enfin dans la capitale. Qu'est-ce qui vous manque le plus de cette ville, de Toulouse? Qu'est-ce qui vous rend le plus nostalgique?
Je ne suis pas forcément nostalgique parce que pour moi, Paris, c'est un grand Toulouse en fait. J'arrive à retrouver dans les arrondissements de Paris cette vie de quartier.
Mais quand on est place des Vosges, il y a de la brique.
Oui, il y a de la briquette, mais après, ah, j'adore l'architecture parisienne, donc c'est pas un manque forcément. Je trouve que Paris est magnifique et je rêvais en fait de vivre à Paris depuis que j'étais toute petite.
Ah
donc
oui,
j'ai réalisé quelque part mon rêve. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai voulu vivre dans Paris. Et donc c'est pour ça que je suis pas forcément nostalgique de ma vie à Toulouse.
Qu'est-ce qui vous a attiré à Paris ?
J'ai toujours été fascinée par l'architecture de Paris. Dès qu'on se balade dans les rues,
quoi.
L'haussmannien, c'est vraiment quelque chose que j'adore en particulier. Et puis, on a l'impression d'être emprunt d'une énergie folle. C'est là où tout se passe, au niveau des spectacles, au niveau de la culture, les petits restos. On est heureux d'ailleurs que ça réouvre maintenant,
parce que
ça fait partie de la vie parisienne à part entière. Et c'est ce flegme parisien, moi, que j'aime beaucoup.
Chloé Nabédian, est-ce que Paris, justement, a changé depuis un peu plus d'un an, depuis le début de la pandémie et des confinements ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'évolution de la ville ?
Ce qui m'a marqué, c'est justement lorsqu'à un moment, je partais dans un rendez-vous et que je devais traverser Paris en voiture, j'ai été frappée de voir la place de la Concorde, Madeleine, Opéra. Alors, ça roulait méga bien, donc j'étais contente quelque part, mais c'était vide. Ça faisait une ville fantôme, en fait, dans ces grandes rues qui étaient commerçantes, hyper vivantes. Il n'y avait plus personne. Et c'est ce manque de vie, en fait, qui manque aujourd'hui. Donc, les touristes aussi, qui ne viennent plus forcément comme avant. Donc, c'est cette émulation parisienne, cette vie, cette densité qui manque aujourd'hui, je trouve.
À Paris, vous vivez en appartement ?
Oui.
C'est pas trop dur quand il y a un confinement comme celui que l'on a vécu, même trois confinements d'ailleurs ?
Non, parce que j'ai un balcon.
Alors,
ça a été ma chance. Ça change tout. Et en plus, j'arrive à voir le ciel très très bien. J'ai pas forcément des immeubles qui sont rasants. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir avoir l'impression d'être un peu dans la nature quand même, puisque j'ai beaucoup d'arbres autour de moi.
Vous disiez tout à l'heure que vous aimiez le haussmannien. Ça veut dire que vous avez choisi du haussmannien, par exemple ?
Oui, mon appartement, c'était un des critères d'ailleurs quand on a déménagé, c'était de choisir un appartement haussmannien pur, donc avec ses moulures, avec ses incroyables cheminées, avec son parquet, certes, qui grince, qui n'est pas forcément très bien pour les bruits autour des voisins, mais pourtant, c'est ce cachet-là, en fait, que j'adore dans l'haussmannien. Et on a réussi à trouver cet appartement-là.
Les cheminées fonctionnent ?
Non, on n'a pas droit. Mais on a prévu de mettre en place un système à l'éthanol pour faire genre un petit peu.
À l'éthanol ? Ah, oui, d'accord.
Oui, ça existe, oui. Avec des fausses bûches et tout.
D'accord.
Mais non, malheureusement, on ne peut pas l'utiliser.
Bon. En tout cas, effectivement, c'est vrai que le haussmannien, il y a ce côté très, très chaleureux, finalement, très... très humain, quelque part. Hein. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose de froid. Donc, c'est ça aussi qui attire les gens vers cette architecture, bien évidemment. Le logement neuf, ça vous a jamais attiré ?
Non, justement, parce que pour moi, ça manque d'histoire. Et ça a toujours été la base. C'est-à-dire que j'ai toujours eu le besoin d'être dans des maisons où il y avait un passé, une histoire, des choses sur lesquelles se raccrocher. Pour moi, quand c'est neuf, je ressens pas du coup tout ce qui s'est passé avant et je me sens pas forcément bien et à l'aise. C'est un peu trop clean, finalement, pour moi. J'aime bien quand il y a des aspérités.
Ouais, et quand vous voyez ces constructions ultra-modernes qui sortent de terre, etc., vous vous dites... Ça ressemble à rien ?
Non, il y en a qui sont absolument fantastiques et je pense notamment à ces nouveaux immeubles qui sont créés justement et qui peuvent arriver à lier développement durable et cette architecture un petit peu novatrice. Il y en a une à Taïwan qui s'est mise en place grâce à Vincent Calbeau, qui est un architecte qui est spécialisé vraiment sur ces questions-là. Et vous avez des terrasses végétalisées absolument incroyables, vous avez des espèces d'îlots de fraîcheur en fait, qui se mettent en place pour lutter contre les canicules. Et c'est vraiment magnifique. Donc peut-être que pour vivre plus tard dans une tour comme ça, je ne dis pas non au neuf, mais ça reste encore trop rare malheureusement.
Et on a les tours en bois qui apparaissent à Bordeaux, à Lyon, et qui sont assez jolies finalement
assez joli.
D'apparence. Alors après, il faut voir comment tout ça vieillit bien évidemment, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant en tout cas de voir ces constructions. Vous êtes en appartement, c'est votre rêve un jour d'acheter une maison avec un grand jardin, non ?
Non, pas forcément. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens d'investir dans Paris, parce que
oui,
c'est
bah,
un petit peu trop
gens,
cher.
Hein,
voilà.
Ouais, ouais,
donc,
ouais.
Le choix qu'on a fait, en revanche, c'est d'acheter un petit colombier en Normandie. Dans,
ah, quand
voilà,
même.
Quand même. Donc, on a un espace où on peut effectivement se mettre au vert quand on en ressent le besoin, en tout cas. Et là encore, ce n'est pas une construction neuve, puisque c'est un ancien colombier qui a été réhabilité en petite habitation, en fait. Donc, on a les colombages, on a de la briquette.
Ah,
je la retrouve
enfin. La fameuse
briquette,
on
voilà.
La retrouve en Normandie.
Et,
voilà,
voilà ouais. C'est un petit pied à terre qui fait que 50 mètres carrés, mais qui a beaucoup de cachets.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Chloé Nabédian ? Parce que c'est vrai que, bon, on vous voit sur France Télévisions régulièrement pour la météo, et on se dit, et moi je me dis là, après cet entretien, c'est pas possible qu'une animatrice, une journaliste avec autant de talent reste à la météo toute sa vie.
Ah mais c'est pas qu'un tremplin, la météo, on peut réaliser de grandes choses avec ces 3-4 minutes qu'on nous offre chaque soir. Justement, on a la possibilité de pouvoir impacter durablement la vision, peut-être au niveau de la météo et du climat, de 4-5 millions de personnes, donc c'est quand même pas rien. Et moi j'ai envie de continuer à la météo, mais j'ai envie de développer des magazines à côté, c'est ce que je fais déjà depuis que je suis arrivée à France Télévisions, ils me laissent cette chance-là. Donc ça a été via le prime time au cœur des éléments, c'est via le Tour de France avec la pastille de la biodiversité, c'est via des reportages que je peux faire pour la rédaction de France 2. Et c'est vrai que mon envie à court terme, ce serait de devenir plutôt productrice, de coproduire des magazines pour pouvoir aller au bout de mes idées et de mes envies.
Mmh. Quel regard vous portez sur la télé en général aujourd'hui ? Certains disent il y a beaucoup de chaînes finalement, mais la qualité globale a diminué.
Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord parce que je trouve que les chaînes prennent beaucoup de risques maintenant pour malgré tout mettre des programmes de qualité avec des partenariats. On a pu le voir quand même à TF1 avec des séries absolument incroyables. France Télévisions qui met en prime time des émissions sur l'Europe, sur l'environnement, en politique. C'est quand même très audacieux. Il n'y a pas une... On ne cherche
mais après,
pas...
il y a toutes ces chaînes de la TNT où il y a beaucoup de programmes très légers, on va dire.
Oui, alors ça, c'est autre chose.
Ils en font pour tous les goûts.
Voilà,
hein,
le propre bon, de la TNT, c'était pour offrir un panel de chaînes gratuites avant tout pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'avant on avait accès à ces chaînes-là mais il fallait payer sur les box. Je ne sais pas trop l'avenir qui aura vraiment sur les chaînes de la TNT. En tout cas, moi je trouve que sur les chaînes principales, le job est largement fait.
Merci pour ce moment, comme dirait Valérie Trierweiler.
Merci à vous.
Merci Chloé Nabédian d'avoir été avec nous. La maison où je vis, à retrouver en podcast sur Radio Immo avec Chloé. Et on vous embrasse bien fort. À bientôt.
La maison où je vis, à la découverte des maisons de stars. Une émission à retrouver en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.